Bienvenue à nouveau ce soir, cette rencontre avec Claire Vivier et Guillaume Chamanagian qui vont vous parler du coup de leur saga qui s'appelle La Tour de Garde. Et cette rencontre sera donc animée par David Mendonce, leur éditeur. La parole est à vous.
Merci. Bonsoir, donc nous sommes le vendredi 4 février 2022. Il est 19h passé, nous sommes dans la librairie, dans la bibliothèque Louise Michel. Ok, 3-4, on va reprendre l'enregistrement. Nous sommes dans la bibliothèque Louise Michel, à côté de Buzinval, dans l'Est parisien. Je suis David Melmans, l'éditeur des éditions Forge de Vulcain. Je vous remercie d'être si nombreux dans la salle. Et nous recevons ce soir Claire Duvivier et Guillaume Chamanagian, romanciers. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Alors tous les deux, vous êtes l'autrice et l'auteur d'une saga, d'une hexalogie, on reviendra sur la définition, qui s'appelle le cycle de la tour de garde, qui est divisé en deux trilogies. On détaillera après l'architecture globale. Peut-être avant de commencer à parler du cycle de la tour de garde, on peut mentionner le fait que autant la contribution de Guillaume au cycle de la Tour de Garde, c'était son premier roman publié. C'était ton premier roman écrit aussi ?
C'était mon premier roman écrit, oui.
D'accord. C'est pas très souvent le cas, en fait.
Mais, Enfin, j'ai écrit, j'ai eu un autre roman, effectivement, que je n'ai, pour ainsi dire, pas vraiment présenté à des éditeurs.
Mais, d'accord. Et c'est maintenant que tu me le dis.
Oui.
Voilà. D'accord, ok.
C'est le début d'un vaste cycle de 25 romans.
Voilà, d'accord. C'est
vendu.
C'est vendu. Claire, en fait, ta contribution au cycle de la Tour de Garde, c'est ton deuxième roman publié, puisque avant, tu as rencontré le succès critique et le succès en librairie grâce à un roman qui s'appelle Un long voyage, publié en mai 2020, et qui a remporté le prix Libre à nous catégorie imaginaire, qui est un prix qui est remis par 340 libraires francophones. Tu as remporté le prix elbakin.net du meilleur roman fantasy pour l'année 2020. Et tu as remporté le prix hors concours qui, chaque année, récompense un roman issu de l'édition indépendante. Donc, félicitations, Claire.
Merci.
Voilà. Un long voyage, c'était ton premier roman écrit ou non ?
Non, c'est pas mon premier roman écrit, c'est mon premier roman publié.
D'accord. Et tu l'as écrit avant, après le cycle de la Tour de Garde ?
En fait, j'ai d'abord écrit le premier roman de La Tour de Garde. C'est peut-être un peu abstrait le fait de parler comme ça en termes d'ordre, je ne sais pas, mais effectivement, restons sur le fait que c'était mon premier roman publié et c'était un roman que j'ai écrit seul, contrairement à ce qui va suivre après, qui est en collaboration avec Guillaume Chamanagian. Ouais.
Et c'était un roman qu'on peut, de manière assez générale, dire que c'est un roman de fantasy, qui a des rapports avec la fantasy. Comment tu le définirais, Un long voyage ?
Je crois qu'il est assez universellement décrit comme un roman de fantasy. Enfin, en tout cas, il a été perçu comme ça. C'est vrai qu'il reprend tous les codes de la fantasy. Avec, au début, on suit le destin d'un jeune orphelin qui va quitter ses îles natales et accomplir sa destinée. Donc, on est vraiment dans les codes de la fantasy. Mais effectivement, ce qui m'a amusé, c'est de prendre ces codes de la fantasy et de les détourner un peu, ou en tout cas d'aller un peu à l'encontre des attentes qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que le destin exceptionnel qu'on suit au cours de ce roman, ce n'est pas celui du narrateur, donc le fameux jeune garçon, mais celui de la personne qui va le faire quitter ses îles, et qui est une femme, donc Malvin Zelinette Felerazi, qui, elle, va connaître vraiment une destinée exceptionnelle, à laquelle, pour le coup, elle avait été préparée par son éducation, par... voilà. Donc on a quand même le point de vue de l'homme de l'ombre, donc, puisque ce... Ce narrateur, Yes, devient son secrétaire, puis son ami, son bras droit. Mais voilà, tout au long du roman, j'ai essayé un peu de jouer sur les attentes pour, parce que j'aime bien les romans qui surprennent le lecteur en tant que lectrice, et c'est ça que j'avais envie d'offrir moi aussi.
Et je pense que beaucoup de lectrices et lecteurs te sont reconnaissants de la surprise qu'ils ont eue en découvrant Un long voyage. Et après, ce qui est la deuxième surprise qui est arrivée, c'était ma surprise, parce que dès qu'est sorti Un long voyage et qu'on a senti qu'il y avait un engouement autour de ce roman, je t'ai demandé c'est quoi le projet d'après. Et là, en fait, c'est moi qui ai été surpris.
Oui, cette fameuse question complètement désintéressée des éditeurs. Et alors, après, on fait quoi? Et effectivement, j'étais, ah bah écoute, mon compagnon, il a écrit un roman.
Savoir que c'est le pire cauchemar d'un éditeur, c'est d'entendre ça, en fait.
Oui. Est-ce que tu veux le lire?
Oui, alors, effectivement, ce qu'il y a d'assez fantastique avec l'écriture, c'est que parfois, quand on écrit, c'est dur d'écrire, ça demande une très très forte exigence envers soi-même, et on a parfois tendance à en parler un peu aux gens qui sont proches de soi, donc aux membres de sa famille, et souvent il y a des familles où on va vous dire c'est nul, vous n'y arriverez pas, et il y a des familles où on vous encourage à l'excès, et donc ce qui fait que parfois on n'a pas une immense lucidité sur l'écriture de nos proches, parce qu'on a envie de les encourager. Et donc, quand Claire m'a dit « mon compagnon écrit », moi, j'ai senti des problèmes qui arrivaient.
Mais c'était limite pire que ça, parce que j'ai dit « mon compagnon écrit », mais en plus, je suis dans un projet avec lui. Donc, si tu veux publier mon prochain roman, il faudra aussi publier son roman, parce que les deux romans sont reliés, en fait.
Oui, là, j'étais vraiment coincée, en fait.
Elle était pâle, vous imaginez pas.
Oui. Et donc, j'ai reçu, avant de recevoir ta contribution, j'ai reçu la contribution de Guillaume, que j'ai lu avec une très grande appréhension et que j'ai trouvé fantastique. Et c'était donc le manuscrit qu'allait donner Le sang de la cité. Premier roman, donc, proposé par Guillaume Chavanidjian à un éditeur. Et ton premier roman publié, roman qui lui aussi rencontre un très bel accueil auprès du public, qui gagne le prix de la 25e heure du Mans, catégorie imaginaire, et qui continue une grande carrière, parce qu'il est finaliste de beaucoup de prix actuellement.
6, voilà. Je crois, au dernier recensement. Voilà.
Alors, ce matin, je discutais avec une éditrice, et qui m'a dit qu'il faut mettre en bandeau dessus, il ne faut jamais dire les prix qu'on gagne, il faut dire...
Finaliste de 6 prix.
Finaliste de 6 prix, ou voilà, comme ça, les gens ne savent pas quelle est la taille des prix, voilà. Mm-hmm. Mais, donc... Parle-nous du sang de la cité. D'où ça vient ce projet d'écrire ensemble, en fait?
Alors, en fait, ce projet, le projet de départ, c'était pas tant d'écrire ensemble que d'imaginer des choses ensemble. Il faut savoir, bon, sans vouloir raconter notre vie, que Claire et moi, donc au civil, effectivement, nous sommes compagnons. Et en fait, il y a quelques années de ça, on a fait un voyage en Italie. On était partis en train faire la Toscane. Et en fait, on est tombé complètement amoureux de la ville de Sienne, qui est une ville assez extraordinaire. C'est une ville avec une architecture très moyenâgeuse, avec des couleurs, une chaleur, et puis plein de petites ruelles très très étroites. La ville est subdivisée en quartiers. Chaque quartier est aux couleurs d'un animal, entre guillemets. Donc il y a un quartier de la tortue, il y a un quartier du dauphin. Et au centre de la ville, il y a une place qui fait à peu près un demi-terrain de foot. Et tous les ans, donc, chacun des quartiers désigne un champion, et puis il y a une course de chevaux sur cette place, qui consiste à faire une fois le tour de la place, donc ça dure un peu moins de 2 minutes, et ils célèbrent tout ça, donc le quartier qui gagne est honoré pendant les 6 mois qui viennent. Et en fait, quand on est reparti de là, avec Claire, on s'est dit, cette ville, c'est une ville de fantaisie. On a du mal à imaginer qu'au XXe siècle, on ait pu garder ses traditions, que ça fasse vraiment vivre, que ça rythme la vie d'une cité tout entière. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait? Enfin, c'était une espèce de jeu d'esprit. Qu'est-ce que ça donnerait, cette ville, si on multipliait ses dimensions, si on imaginait que c'était une vraie cité-État? Qu'est-ce qu'il faudrait en termes politiques pour que ça fonctionne? Quels seraient les problèmes? Et puis, tout est parti de là. On a juste imaginé un peu un cadre, et c'était juste un jeu entre nous. Et puis ça a pris du temps, enfin c'était il y a très très longtemps. On a eu le même type d'expérience quelques années plus tard à Amsterdam, où on s'est dit c'est quand même une ville particulière, c'est une entité en soi, en fait, cette ville. Et du coup, pareil, en rentrant, on a imaginé, on a fait un petit peu le même type de jeu, et on s'est dit qu'est-ce que ça donnerait une ville type Amsterdam. Et puis c'est là qu'est née un peu l'idée d'opposer les deux villes qu'on avait imaginées. Et de faire une histoire qui tournerait autour de ces deux villes. Alors, on n'en était pas encore à se dire qu'il y aura vraiment un auteur pour une ville, un narrateur pour une ville, etc. Parce que c'était juste un projet, c'était un jeu, en fait, entre nous. Et en fait, il s'est encore passé quelques années. Et puis, avec Claire, un été, on s'est décidé à franchir le pas et en faire deux histoires séparées, une sur chacune des villes.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on franchit le pas, justement? comment on passe d'un jeu de l'esprit. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ont ce type d'expérience, c'est-à-dire d'avoir une histoire dans leur tête, de la tourner de multiples façons, de la retourner. Mais passer à l'écrit, c'est quelque chose quand même.
Bah, je pense qu'on avait un peu tous les deux, enfin arrête-moi si je me trompe, Claire, mais on était tous les deux des écrivains en herbe, entre guillemets. Enfin, en plus, on est tous les deux passionnés de livres d'une manière générale. Je pense que cette histoire, elle nous obsédait d'une certaine manière depuis suffisamment longtemps pour qu'on ait envie, d'une manière ou d'une autre, de la faire sortir. Et cette manière, ça a été des romans, tout simplement.
Et je pense qu'on a tous les deux été on se connaissait pas à l'époque, des ados qui écrivaient. Et puis en fait, on a arrêté d'écrire pour vivre notre passion du livre différemment. En tant que lecteur, on travaille aussi dans le livre. Donc c'était vraiment toujours la passion du livre qui nous animait plus que la passion de l'écriture. Et effectivement, le fait de passer et repasser à l'écriture, c'était aussi pousser le jeu un cran plus loin. C'était une façon de le prolonger et de le faire différemment. Parce que l'idée, c'était aussi de se faire lire au fur et à mesure ce qu'on écrivait. Et c'était un peu l'idée d'épater l'autre aussi. Enfin, c'est assez sympa de faire ça à deux, c'est savoir qu'on a un lecteur qui est là et qui nous attend. Et surtout que ça va, tout va être basé sur l'échange, en fait. Le fait de se faire lire mutuellement. Donc c'est ça qui a vraiment motivé...
Oui, une dimension de joute, presque.
Voilà, ouais. De jeu.
D'ailleurs, plus de jeu que de joute. Hein.
Voilà, la figure du jeu est centrale dans les romans aussi, et dans tout le cycle de la Tour de Garde, puisque le cycle s'appelle la Tour de Garde, parce que c'est le nom d'un jeu, type jeu de société, un mélange.
Entre d'un jeu imaginaire.
D'un jeu imaginaire.
Qui est dans le jeu, qui est dans le roman. Je reviens juste sur un détail, c'est qu'en fait, comme il y a cette naissance qui se fait à la faveur de... visite dans des villes, ça donne une présentation où on imagine tout de suite quelque chose qui relève de la réflexion sur la cité, ce type de choses. Mais pourtant, quand on lit vos romans, chacun des deux romans, à sa façon, est à la fois un roman d'aventure et un roman d'éducation. Et comment vous êtes passé de « j'ai envie de parler d'une ville » à « j'ai envie de parler de personnages » et de faire vraiment ce que j'apprécie beaucoup dans votre écriture, c'est que c'est du vrai grand roman avec des personnages, des sentiments, de l'aventure. Mmh. Alors après, il y a aussi des idées, des thèmes, des réflexions politiques sous-jacentes, mais toujours avec d'abord cette idée de distraire en croyant au personnage. Donc à quel moment les personnages sont apparus dans votre aventure d'écriture?
Au début, comme tu disais, on est parti des villes. Donc, cette ville héritée de Sienne et cette ville héritée d'Amsterdam, qui ont très vite été la capitale du Sud, la capitale du Nord. Ça nous intéressait d'opposer ces deux villes, parce que pour nous, c'était vraiment deux cultures qui s'opposaient, comme on pouvait voir en Europe, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Évidemment, on a poussé le trait assez loin, donc jusqu'à faire de la ville du Nord, une ville de la raison, où finalement l'art n'aurait pas beaucoup d'importance. On sait qu'en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Dans les Pays-Bas du siècle d'or, l'art est très important. Mais l'idée, c'était un peu de pousser ces caractères au maximum, opposé à une ville du Sud, où pour le coup, c'était la poésie, les mythes qui étaient plus importants. Et en fait, partir de ces villes, c'était intéressant, on était toujours dans le décor. On s'est dit, pour animer nos trilogies, il faut qu'on ait chacun un narrateur, et que ce narrateur, à chaque fois, soit vraiment le fruit de sa culture, de sa cité. Et c'est comme ça que sont nés d'abord Nox, donc le personnage principal du centre de la cité, donc de capitale du Sud, et ensuite Amalia, donc sa contrepartie de la capitale du Nord. Si tu veux dire plus sur les personnages.
Alors, pas tant sur les personnages, mais pour dire en fait, effectivement, tout est parti de ce cadre, entre guillemets, et comme disait Claire, on voulait que chacun des personnages soit à la fois un produit et un reflet de sa ville. Le cadre, entre guillemets, c'était le jeu entre nous. C'était vraiment, d'ailleurs, imaginer ce qu'on appelle... ce qu'on appelle en fantasy un world building, mais avec Claire, on était d'accord dès le début pour dire que ce world building, on voulait, enfin cette description de la ville, on voulait pas que ce soit justement trop descriptif, trop long, trop lourd. Nous, ce qui nous intéresse en tant que lecteur, d'une manière générale, c'est les histoires. Donc, quand il a fallu se poser la question de qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, évidemment, c'est là qu'on s'est dit, il faut créer des personnages, il faut une intrigue, il faut des thématiques. Et là aussi, c'est un point sur lequel on est plutôt d'accord avec Claire, c'est que ce qui est le plus important dans une intrigue, en premier lieu, c'est les personnages. Donc il fallait qu'ils soient à la fois ce reflet de la ville, et puis qui soit suffisamment intéressant, qui donne envie de faire connaître la ville, qui soit à la fois guide et qu'ils vivent en quelque sorte leur cité. Donc qu'ils soient plongés dans les ruelles, comme peut l'être Nox dans le sein de la cité, ou plongés dans les arcanes du pouvoir, comme peut l'être Amalia dans Citadin de demain, ce qui dit aussi beaucoup des deux villes. Donc, et à partir de là, bah, oui, on a eu une démarche beaucoup plus de, j'allais dire de romancier, je ne sais pas si on en est vraiment là, mais de se dire que le plus important finalement, enfin la ville était le point de départ, mais le plus important c'était de raconter des histoires dessus.
Oui, en tant que simple lecteur, moi ce qui m'avait fasciné, c'était de me dire que dans toutes les grandes villes de l'histoire, et enfin si on remonte à Rome, il y a toujours un écart entre la ville rêvée et la ville réelle. Et en fait, je trouve que c'était à la fois très naturel et très original, parce que je l'avais peu vu avant, d'écrire des romans sur des villes où les personnages principaux sont des jeunes adultes, d'une certaine façon.
Des jeunes adultes,
à la fin de toute fin d'une adolescence tardive, début de l'âge adulte. Mmh. Et donc, où eux aussi, ils passent du monde du possible au monde du réel. Et en fait, les frontières qu'ils rencontrent eux-mêmes, qui les traversent, qui traversent les relations qu'ils ont avec les autres, en les traversant, en fait, ils vont toucher les limites de leur propre ville, l'écart entre la ville rêvée et la ville réelle.
Bah, c'était complètement ça, effectivement, l'objectif, entre guillemets, en tout cas pour Nox et aussi d'une certaine manière pour Amalia, c'était de dire que Nox étant un personnage qui est féru de poésie, de lecture, alors il est commis d'épicerie dans sa vie professionnelle, mais effectivement son occupation principale c'est de traîner avec des poètes, de jouer avec eux, de déclamer des vers, d'apprendre du théâtre, etc. Et effectivement, comment est-ce qu'un jeune homme comme ça qui vit dans une cité telle que celle-ci, qui est absolument passionné par l'histoire de sa ville et par la poésie qui en a découlé, comment est-ce que ça pourrait ne pas être un idéaliste? Donc évidemment, il est très très idéaliste, un peu naïf, hein, pas bête mais naïf, hein, et effectivement, le moment où il est confronté à la réalité de sa ville, aux problématiques qui sont loin d'être ce qu'il a idéalisé, c'est le moment où il y a justement rupture et donc histoire.
Oui, parce que vous êtes parti effectivement de quelque chose qui est en apparence abstrait, mais c'est en fait des récits qui ont beaucoup de corps, dont le moteur principal, c'est les personnages.
Oui, et puis pour faire le parallèle, Guillaume parlait de Nox, mais pour Amalia, effectivement, comme tu dis, c'est la découverte du monde réel, c'est-à-dire que Amalia, c'est quelqu'un qui, avec son fiancé et un troisième personnage, ont reçu une éducation très spéciale. Une éducation qui devait faire d'eux les citadins de demain du titre, c'est-à-dire qu'on les a vraiment éduqués dans tous les domaines, l'économie, le droit, les mathématiques, des choses très pratiques aussi et des choses très abstraites, mais en tout cas il y avait une chose sur laquelle on ne les a pas formés, c'est tout ce qui a trait à l'imagination, aux arts, des choses comme ça. Et du coup, cette éducation qui est censée les rendre extrêmement éclairés, finalement va les rendre tellement éclairés que ce qu'ils vont voir en premier, c'est surtout les problèmes de leur ville, les problèmes de leur société, qui ne va pas du tout. C'est une société de caste qui est au bord de l'effondrement, comme souvent les sociétés de caste, au bout d'un certain moment, il y a un point de rupture. Voilà, donc juste pour faire... c'est pas une idéaliste, Amalia, clairement pas, parce qu'elle est l'objet de sa caste, c'est une jeune noble, mais effectivement, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que son monde n'est pas si parfait que ça.
Alors, en plus, là, on a parlé de chacune des villes séparément, mais petit à petit apparaît une interaction entre les deux villes, une interaction, quand on lit chaque roman séparément, qui est très discrète, c'est-à-dire dans la capitale du Sud, on parle de manière discrète et rare de la capitale du Nord, dans la capitale du Nord, on parle de manière discrète et rare de la capitale du Sud, mais quand on a lu les deux romans, est-ce que vous avez perçu, est-ce que vous avez conçu ces deux romans comme étant en fait les deux grands modèles de ville qui étaient comme deux polarités complètement différentes? Parce que c'est Gemina, la capitale du Sud, elle est très organique, c'est une plante proliférante par moment, avec une forme d'anarchie à demi contrôlée, d'anarchie, d'ordre sans le pouvoir, c'est-à-dire Et à l'inverse, la cité du Nord, Deaven, c'est une ville où on sent que chaque fois qu'il y a un début de liberté ou d'anarchie, il y a une tentative par la noblesse de réordonner les choses par la raison. Est-ce que vous avez pensé, quand il y avait ce jeu entre vous, est-ce que vous vous êtes dit, on va accentuer ces caractéristiques pour créer en fait deux modèles de villes qui se rejettent en fait.
Comme je disais au début, l'idée c'était de construire les deux villes en opposition, quitte à justement exagérer certains traits, en s'éloignant donc de la réalité de Sienne et d'Amsterdam, justement pour qu'elles soient en opposition. Donc avec le côté raison d'un côté, art de l'autre, le côté ordonné, chaotique, le côté société de caste, et puis plus, c'est pas vraiment en anarchie, mais effectivement le côté plus bordélique.
Des familles, entre guillemets, joyeux, qui s'entre-déchirent. Voilà.
Le côté joyeux bordel de Gemina. Ouais, tout est construit comme ça, de toute façon, que ce soit entre les personnages, entre les différents événements qui peuvent se passer dans les deux romans, entre les deux villes en elles-mêmes, tout le cycle de la tour de garde, et ça se voit dès les premiers volumes, est construit sous le principe du jeu de miroir.
Oui, d'ailleurs, alors vous voyez peut-être un peu là, les couvertures qui sont réalisées par Elena Vieillard, c'est deux premières couvertures d'une fresque de six couvertures qui sont en fait qui se rejoignent en un point central que vous découvrirez dans deux ans, qui est la tour de garde, en fait. Vous avez conçu cet univers ensemble. Aujourd'hui, on dirait presque que c'est un univers partagé, mais vous avez quand même des écritures différentes. Et vous n'avez jamais songé donc à écrire ensemble. D'emblée, vous étiez parti pour chacun écrire son œuvre.
Oui, on a tourné les choses un peu dans tous les sens avec Claire, en se disant dans un premier temps peut-être que chacun va écrire à tour de rôle sur Nox et sur Amalia, et puis s'échanger les personnages, faire et en fait on s'est dit que bah non. Déjà parce que Claire et moi on n'a pas le même rythme d'écriture, on n'a même pas la même manière de travailler. Donc ça aurait été, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis en plus on avait cette problématique qui était, enfin où on s'est posé la question dès le début, ce qu'on voulait c'était que chaque personnage porte sa ville, enfin comme on disait, qu'il soit le reflet de sa ville, qu'il porte sa ville. Et quelque part c'était un peu obligatoire aussi que chaque auteur porte son personnage. Donc dès le début, enfin assez rapidement, on s'est dit que ça aurait beaucoup plus de cohérence si on faisait en sorte que chacune des histoires, chacune des villes, chacun des personnages soit porté par un seul auteur.
Et pourtant, on sent qu'à l'horizon de chacune de vos trilogies, il y a un moment où vous allez vous rejoindre d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou c'est encore trop tôt ?
On peut un tout petit peu spoiler, mais effectivement, Les personnages sont amenés à se rencontrer dans les tomes 3. Donc les tomes 3 sont encore... Enfin, on les a déjà bien écrits, entre guillemets. On a fini les premiers jets. Mais on a même en réalité des dialogues en commun dans ces tomes, en essayant de faire en sorte que chaque dialogue ait un sens différent. Parce que ce sont les mêmes lignes de dialogue, mais elles n'ont pas forcément le même sens pour le lecteur, suivant si on les lit dans Capitale du Sud ou dans Capitale du Nord.
Alors là, on est vraiment rentré dans le détail, mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que côté Forge, les Forges, c'est une petite maison d'édition qui a une douzaine d'années et qui publie une dizaine de livres par an. Et en fait, on n'avait pas vraiment de série dans le catalogue. Alors en fait, parallèlement à vous, est apparue une autre série qui est une série d'un auteur chilien qui s'appelle Gilberto Villarroel, et la série s'appelle Cochrane. Mais c'est vrai que la série présente toujours une difficulté dans l'édition, c'est qu'en fait, il faut s'engager sur beaucoup de titres, ce qui est toujours délicat. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de séries qui, dans l'histoire de l'édition, ont été arrêtées pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Parfois, l'auteur réussit à vendre les droits d'adaptation à la chaîne américaine HBO et décide de devenir scénariste et producteur télé, et il décide de ne pas finir ses romans, ce qui est son droit le plus absolu, mais donc pour moi c'était franchir un Rubicon en tant qu'éditeur de commencer à publier cette série, mais en fait quand les auteurs sont arrivés, en fait elle était déjà très en place, avec la certitude, en fait connaissant les auteurs mais aussi voyant l'état d'avancement des quatre premiers volumes, sachant que quand on a lancé la série, on savait déjà quelles seraient les dates de publication des six volumes, et il y avait la certitude qu'il n'y aurait que 6 volumes, pas 4, pas 8, mais vraiment 6, avec un timing, comment dire, un cadençage très simple, puisque les romans de Guillaume, Capitale du Sud, sortent chaque mois d'avril, et ceux de Claire, Capitale du Nord, sortent chaque mois d'octobre. Non, j'avais pas de question, mais je pensais que Guillaume voulait dire quelque chose. Non, il n'y avait pas de question, là.
C'était pas de question.
Pas de question. Alors, ces jours-ci, on est à quelques semaines de la sortie du deuxième volume de Capitale du Sud, qui s'appellera...
Trois Lucioles.
Voilà. Donc, Trois Lucioles, ça sort début avril. Alors, j'ai une petite question. C'est que là, je viens de dire que... je me suis lancé parce que j'avais confiance dans les auteurs, mais aussi parce que les textes étaient très très avancés, le projet était fascinant. Mais est-ce que vous avez été tenté face à l'accueil qui est très positif, mais qui est aussi très étendu ? C'est-à-dire que quotidiennement, moi je vois passer des messages de gens qui ont lu vos textes, qui ont des remarques à droite, à gauche, dans tous les sens. Des remarques bien sûr complètement contradictoires les unes par rapport aux autres. Voilà, est-ce que... Ça a une influence sur l'écriture des autres volumes ou non ?
Bah, ça nous met du stress. Hein. Mais à part ça, non, en fait, parce qu'on avait vraiment...
On savait déjà où on allait.
Oui, c'est ça, on avait tout cadré déjà auparavant. Donc on savait que ce serait trois volumes, qu'on n'en ferait pas plus parce que ça n'a pas de sens, tout simplement. On ne s'interdit pas peut-être d'écrire une autre histoire dans cet univers plus tard, mais déjà pas tout de suite après parce que... parce qu'on a envie de faire d'autres choses entre-temps. Non, parce qu'en fait, cette histoire, enfin pour chacune des trilogies, donc chacune des trilogies vit séparément, comme je disais, elle est portée par un auteur. Chaque trilogie a un début, un milieu, une fin, et la fin est cohérente avec le début. Elle a été pensée depuis l'origine, entre guillemets. Donc on n'est pas... moi, je trouve que ça n'aurait pas de sens de vouloir changer les choses en cours de route, dans la mesure où ça a été... Ça a été construit dès le premier roman. Il y a des éléments qui mettent en place la fin du troisième volume. Donc j'aurais l'impression de tirer à la ligne et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Je reviens sur quelque chose que en fait qu'on n'a jamais évoqué lors de ces rencontres. C'est que tout à l'heure vous nous parliez de ce moment, premier moment déclencheur qui sont ces voyages de visite de ville. Puis il y a cette idée d'en faire un jeu, puis il y a cette idée d'en faire une fiction écrite, mais pourquoi aller vers un monde médiéval ? Est-ce que ça vous a tenté de construire ça dans un haut type d'univers, un univers presque contemporain ? Je mentionne ça parce que Claire est aussi éditrice dans une maison d'édition qui s'appelle Asphalt. Après, tu me compléteras ce que je veux dire, mais qui publie principalement la fiction contemporaine francophone et étrangère, où il y a un goût pour la ville et pour l'environnement urbain. Donc, est-ce que vous avez été tenté par construire ce projet, non pas dans un environnement médiéval avec une touche de fantastique, mais dans un environnement plus contemporain ?
Ça ne vous a jamais... on n'y a jamais pensé. Parce qu'en fait, on est parti au début de Sienne, qui est vraiment cette cité médiévale complètement folle. Et qui nous a... Enfin, c'est ça qui nous a beaucoup plu aussi. Quoi. Donc, pour le coup, dès le début, c'était la Sienne... on va dire la Toscane de la Renaissance, on va le dire plutôt globalement, plus que au Moyen-Âge. Et pour Amsterdam, c'était pareil, quoi.
Mais par contre, donc pas vers le roman historique. Donc là, vous vous êtes dit, ça ne vous intéresse pas du tout le roman historique.
Non, parce que l'idée, c'était d'extrapoler ces villes et d'en faire d'autres villes. C'est de s'extraire du réel, en fait.
Et est-ce que toi, vous deux, vous étiez des lecteurs de fantasy ou est-ce que vous aviez des liens avec les mondes de fantasy par toutes sortes de pratiques culturelles ?
Alors, j'ai lu de la fantasy beaucoup quand j'étais plus jeune. J'en lis plus rarement. Ou alors des choses un peu qui sortent des sentiers battus, des trucs enfin, type Krah, de Crowley ou des trucs comme ça. Mais pour moi, la fantasy, ça a surtout été via le jeu vidéo et le jeu de rôle, en fait. Donc, gros non substrat, on va dire, de fantasy, c'est vraiment les Baldur's Gate, les Dragon Age, c'est vraiment plus ça, en fait, qui m'a fait puiser dans
la fantasy. Et en jeu de rôle
En jeu de rôle, on jouait surtout à... Bon, en même temps, ouais, on jouait peut-être plus à... Si, Seven Seas, ouais, pour le coup, c'est vraiment fantasy.
Le secret de la septième mer, en français.
Oui, ouais. mais sinon, les autres jeux auxquels on jouait, c'était peut-être moins fantasy, en fait. J'exagère peut-être. Moi, j'ai commencé, mais il y a très très longtemps, avec Rêve de Dragon, donc pour le coup, c'était vraiment de la fantasy. Mais sinon, on a plus fait fantastique, en fait.
Oui, plus fantastique, un peu de steampunk avec Victoriana.
Oui, c'est vrai, c'est bien ça.
Du pulp aussi, avec Hollow Earth Expedition, ouais. Donc, sur la Terre Creuse, avec des dinosaures et des nazis. C'est très...
Dans cet ordre.
voilà. Oh, parfois les deux en même temps. C'est donc oui. Et après, bah, pour, comme Claire, en fait, on a un peu le même type de profil. C'est-à-dire que moi aussi, je lisais beaucoup de fantasy en étant jeune adulte entre guillemets. Je continue à en lire en bande dessinée notamment, un petit peu en manga, mais aussi en littérature évidemment, mais beaucoup moins quand même parce que je lis aussi d'autres choses en littérature. Et c'est vrai que, bah, par contre, côté audiovisuel, c'est essentiellement les jeux vidéo et un peu de séries télé, avec celle que tu as mentionnée à demi-mot tout à l'heure, notamment.
Alors, justement, c'est que, certes, vous êtes un couple, donc vous avez certaines pratiques culturelles communes, mais à la lecture de vos romans, on ressent aussi de profondes différences esthétiques. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était deux romans qui étaient à la fois des romans d'aventure et des romans d'éducation. Je pense que beaucoup de lecteurs et lectrices ont repéré que peut-être que l'accent du roman d'aventure est plus fort chez toi, Guillaume, celui du roman d'éducation plus fort chez toi, Claire. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'est un pli naturel de votre écriture? Est-ce que c'est en travaillant ensemble que vous avez dit que c'est l'aventure, c'est Gemina, la ville du Sud s'y prête plus? Et Daven, la ville maîtrisée de l'autocontrôle, se prête plus au roman d'éducation.
Je pense qu'il y a un côté la fée la poule, en fait. Ouais. On s'est un peu posé la question, on se disait, ah mais oui, mais en fait, on s'était répartis comme ça, justement, parce que ça correspondait plus à nos manières d'écrire. Mais peut-être aussi que les villes sont comme ça, parce que ça correspondait... Enfin, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui est venu en premier, en fait. Vraiment, je ne pourrais pas
dire. Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est la thématique?
Ouais, est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est cette approche, soit aventure, soit éducation qui est venue en premier? Je ne pourrais pas te dire.
Et alors, là, vous nous avez parlé un peu de vos références qui relèvent du monde de la fantasy. Mais c'est aussi des romans. Alors, effectivement... Pour des besoins un peu pratiques, on les présente en librairie d'abord pour dans un rayon, en fait, parce que les librairies fonctionnent par rayonnage, parce que ça permet aux gens de s'y retrouver un petit peu. Mais c'est aussi des textes qui sont lisibles par un public, je trouve, plus étendu, parce que il y a beaucoup d'échos de textes de littérature générale. Est-ce que vous, regardant maintenant ces textes qui sont sortis il y a quelques mois, vous avez l'impression de ressentir ou de lire des traces de certains types d'autres lectures qui n'appartiendraient pas aux littératures de l'imaginaire dans vos textes? C'est hyper alambiqué comme question.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que, enfin, moi, j'ai été étudiante en lettres, j'ai adoré le XVIIIe siècle, et je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelques accents.
Ah, c'est Richardson, quoi.
Ouais, puis des romans picaresques, des choses comme ça. Alors effectivement, c'est peut-être moins aventure KPP que l'univers de Guillaume. Mais notamment dans la langue, je pense qu'il y a une petite inspiration littérature 18e siècle ou théâtre 18e siècle aussi.
Bah, je pense que de toute façon, par défi, enfin, je pense moi que, même si je n'en suis pas sûr, évidemment, qu'à partir du moment où on se commence à se mettre à écrire, on est forcément le produit un peu de toutes les influences qu'on a pu lire auparavant. On ne crée pas à partir de rien, entre guillemets, enfin on n'écrit pas, donc il faut forcément qu'il y ait des influences. Moi évidemment, je pense que ce roman, Le sang de la cité, c'est une somme d'influences, une espèce de bouillon de culture, entre guillemets, qui est surtout à moi, entre guillemets, parce que c'est tout ce que moi j'ai pu lire quand j'étais gamin ou adulte ou n'importe quoi. Donc oui, il y a un peu de romans de KPDP que je dévorais quand j'étais gamin, tous les Alexandre Dumas, etc. Il y a une construction qui est un petit peu plus, effectivement, de ce que j'ai pu lire après en fantasy ou même en littérature générale. Je pense qu'il y a une symbolique qui, elle, est plus héritée peut-être de choses que j'ai pu lire en littérature ou en littérature fantastique. Donc oui, c'est de toute façon un substrat de plein de choses différentes.
Je viens de penser à quelque chose que vous avez mentionné et que je ne sais pas du tout sur vous, alors que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Vous avez mentionné tu as mentionné, tu as ouvert une porte dans la discussion sur le fait que vous avez des rythmes différents et des manières très différentes de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces manières différentes de travailler ? Tout en restant gentil avec l'autre.
Ouais, je vais faire comme ça, hein. Claire est beaucoup plus sérieuse que moi et appliquée. Non, mais c'est une manière différente de travailler. Je pense que Claire, arrête-moi si je me trompe, mais Claire, elle écrit beaucoup. C'est-à-dire que quand elle pense un chapitre, elle commence par l'écrire et puis ensuite elle revient dessus tout le temps, elle le retravaille, elle change des choses, elle réagence, etc. Donc elle commence par écrire, elle réfléchit ensuite et puis elle réécrit. Alors que moi, je peux pas.
Attends. Puisque tu as décrit Claire, on va proposer à Claire de te décrire.
Guillaume, il reste dans son canapé en regardant des séries, en disant « Ouais, non mais j'y réfléchis et tout. » Et je suis en train de me dire qu'il est en train de se moquer de moi. Et puis un jour, il se lève, il va « C'est bon, je suis prêt. » Et puis je ne vois pas pendant 2 jours, et ça y est, il a écrit ses chapitres. Quoi. Voilà.
C'est des techniques très différentes. C'est-à-dire que, en fait, aux éditions Force de Vulcain, il y a plus d'une quinzaine d'auteurs français récurrents. Et mon rêve, ça serait pour vraiment apporter quelque chose à la connaissance scientifique des processus de création, d'avoir une sorte de typologie de la création. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a plus un spectre général avec des méthodes très, très différentes entre celui qui, sa méthode, c'est tous les soirs, il écrit une page à quatre, sans plan, sans visée, sans se relire, et au bout de 3 mois, il me balance ça. Celui qui fait un plan hyper précis et après l'écrit. Celle qui a des surgissements et après passe son temps à coudre pour arrimer les choses entre elles. Donc,
j'ai remarqué ça aussi en tant qu'éditrice, qu'effectivement, il n'y avait pas deux façons d'écrire identiques. Et honnêtement, c'est vraiment le truc, en l'occurrence, il ne faut pas écouter les conseils des gens qui vont dire « il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Il n'y a pas de « il faut trouver la façon qui… » Enfin, si vous voulez écrire, il faut trouver la façon qui fonctionne avec vous, et c'est ça le plus important. Par contre, on peut la chercher longtemps. Ouais. C'est une autre question.
Mais toi, et comment tu es arrivé à l'écriture ? Parce que finalement, toi, ça s'est déclenché un tout petit peu avant, puisqu'il y a eu un long voyage avant le cycle de la… Ah mais non, puisque en fait… Vous avez commencé le cycle de la Tour de Garde, mais alors, attends, tu veux dire que le long voyage, tu l'as écrit pendant le cycle de la Tour de Garde ?
Je l'ai écrit pendant le cycle de la Tour de Garde, parce que moi, j'avais fini ma partie.
Parce que je suis plus lent.
Et voilà. Et du coup, comme j'étais bien relancée, j'avais trouvé ma façon de fonctionner, en fait, voilà. Je m'étais dit que je me sortirais bien d'un creux de mon cerveau, une idée que j'avais eue et que j'avais essayé d'écrire sans succès quelques années auparavant, et ça a donné un long voyage.
D'accord. Après, l'histoire de la littérature est faite de romans qui parfois ont été écrits relativement vite et qui sont des chefs-d'œuvre immortels. Donc, un long voyage, il a fallu combien de temps pour… Non, mais en fait, je fonctionne par litote. Hein. Je dis vraiment… voilà, c'est un euphémisme. Hein, voilà. Non, c'est pas un euphémisme, c'est une litote. Voilà. Donc, il a fallu combien de temps pour un long voyage ?
Après, il y a le temps de l'écriture proprement dit, il y a le temps de la réflexion, enfin, c'est le temps de rédaction, ça a été 4 mois. Ouais. Mais voilà, il y a eu beaucoup de… Enfin, l'histoire vivait quelque part.
Donc un long voyage qui sortira en poche au mois d'avril au livre de poche,
oui.
Et en audiolivre au mois de mai chez…
Audiolib.
Chez Audiolib.
Audiolib, voilà. Et toi, Guillaume, est-ce que tu écris un peu plus vite maintenant ? Est-ce que tu as trouvé ta méthode ?
Ma méthode, je l'ai toujours trouvée, mais effectivement, je pars du principe qu'à partir du moment où, ce que disait Claire, en disant je reste dans un canapé pendant 2 jours, ça peut même durer plus longtemps en réalité, tant que j'ai pas vraiment le chapitre quasiment écrit dans ma tête. En réalité, c'est pas seulement dans mon canapé, je fais des longues balades à pied aussi pour réagencer le tout. J'y réfléchis et après, effectivement, je peux sortir un chapitre en moins de 2 jours. C'est très variable en fait. Si je suis très inspiré, le temps de réflexion, il va durer 24 heures et puis après, je peux m'y mettre. C'est un chapitre un petit peu plus compliqué, où il y a plus d'informations à faire passer, là, ça peut être beaucoup plus long.
Mais alors là, ça c'est fascinant, c'est-à-dire que tu arrives à penser une grande partie de ton texte dans ta tête, d'en avoir dans ta tête sans le coucher. D'accord. Et toi, Claire, tu es très vite dans l'écrit, en fait.
Non, je conçois beaucoup dans ma tête, mais j'ai la tête un peu plus bordélique que celle de Guillaume, en fait. Donc, y a une conception. Enfin, voilà, j'ai une grande idée, le gazi, tout. Effectivement, je commençais à écrire, et puis en fait, ah oui, mais dans l'autre sens, c'était mieux, machin, et ensuite, on revient dessus. Alors, je repars, je réfléchis, je reviens. Non, la première fois, c'était mieux comme ça, et tout. Enfin, voilà, c'est du work in progress qui est très... tant que le roman n'est pas complètement fini, tout passage peut être repris, retravaillé, si ça fonctionne mieux, si ça sert l'intrigue, surtout. Voilà, c'est plus comme ça. Mais après, ça travaille aussi dans la tête, hein, c'est pas seulement... Mais effectivement, je n'ai pas le côté contemplatif de Guillaume qui arrive vraiment à réfléchir très en amont, à la réplique près. Moi, pas du tout. Ouais, des fois, je parle d'une réplique, puis je réécris 25 fois la scène, et à la fin, il n'y a plus la réplique. Mais l'idée est là quand même, quoi. C'est,
Ça me fait penser, c'est Ursula K. Le Guin, la romancière américaine, qui disait qu'elle rumine très très longtemps les textes. Et en fait, le moment qui déclenche l'écriture, c'est le moment où, après avoir tourné les personnages dans sa tête, elle possède les personnages. Et ça me fait penser, en fait, à... Il y a une analogie à faire avec votre travail qui part d'une idée, comme chez Le Guin, où souvent il y avait une idée initiale un peu abstraite. Et par contre, on ne bascule dans l'écriture que quand vraiment on a une histoire, quelque chose vraiment à raconter, et qui est aussi lié, je pense, chez vous comme chez elle, un respect pour le lecteur et la lectrice, et cette idée que, en fait, si on a juste une idée, il faut écrire un essai et pas un roman. Si on écrit un roman, c'est qu'on a des personnages et une histoire. Il n'y avait pas de question non plus. Voilà. D'accord. Je te vois qui est au taquet là. Voilà. Bon, et là, vous en êtes où en termes d'écriture actuellement? Vous travaillez sur quoi?
Alors, on n'est pas au même stade, parce que du coup, il y a 6 mois d'écart entre chaque roman. Là, Guillaume a terminé son tome 2, qui va bientôt sortir. Donc là, pour le coup, il est un peu tranquille en ce moment. Et moi, effectivement, j'ai fini de retravailler de mon côté mon tome 2, que je n'ai pas encore envoyé à mon éditeur, comme tu le sais. Parce qu'on attend d'avoir fini celui de Guillaume, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et après, une fois que ce sera fait, et ben on va se repencher sur les tomes 3, dont on a des premiers jets, mais qui demandent encore pas mal de travail.
Et toi, Guillaume, alors tu seras le premier à arriver au terme, c'est-à-dire tu finis... Oh là, ça a l'air lugubre, ce que je vais dire là. C'est-à-dire, l'an prochain, à la même période de l'année, tu auras fini ton tome 3. Et est-ce que tu seras sur ton canapé en plein désespoir existentiel, ou tu seras sur ton canapé à penser à un prochain texte? De toute façon, tu seras sur ton canapé, si j'ai compris.
Alors, connaissant mon éditeur, qui est plutôt du genre à m'envoyer partout en France en librairie et faire des salons du livre, je serai partout en France en librairie à faire des salons du livre, déjà pendant quelques mois.
Mais non, c'est-à-dire que maintenant, il faut que je te demande que dans chaque hôtel, il y a un canapé dans ta chambre, c'est ça?
C'est ça. Et après, oui, j'ai des idées, mais comme tu disais un petit peu, en fait, j'ai des idées. J'ai vaguement des personnages, mais qui sont pas suffisamment maîtrisés, entre guillemets, pour en faire des romans. Donc, pour l'instant, voilà, c'est toujours ce travail de maturation qui peut être effectivement un petit peu long. Et honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que ça va se débloquer.
Bon, et toi, Claire, dans 18 mois, tu seras sur un nouveau texte?
J'ai eu des vagues idées, mais je suis pas pressée. Enfin, pour l'instant, je suis vraiment à fond sur... la tour de garde.
Alors, Guillaume l'a évoqué, c'est que dans la vie d'un livre, il y a l'écriture, il y a le processus éditorial, il y a la sortie, et il y a la vie du livre. Par exemple, ce soir, on est réunis ici, c'est un aspect de la vie du livre, c'est aller le présenter, soit en librairie, soit en bibliothèque. Est-ce que c'est une partie de la vie du livre que vous appréciez? Pourquoi vous l'appréciez? Alors, il faut voir que, je précise quand même que cette rencontre est fantastique, parce qu'elle vient à un moment de calme entre deux périodes de tempête. C'est-à-dire, la tempête, c'est quand on est sur la sortie du livre, où il y a vraiment une période très, très intense. Et là, on est dans une période plus calme. Donc, merci de nous avoir invités à cette période, parce que comme ça, on peut s'asseoir, on n'est pas angoissé, et voilà. Mais quels sont vos souvenirs, vos impressions de ces tournées, en fait?
Bah pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que déjà, d'une part, on est au début du cycle, hein, et surtout, au moment de la sortie du premier, en avril dernier, beaucoup de festivals ont été annulés, c'était compliqué encore de faire des rencontres. Donc du coup, finalement, ça s'est plus fait au moment de la sortie de Citadin de demain, Et en fait, comme les festivals étaient tous en mode rattrapage, où tous les festivals du printemps avaient lieu en même temps que les festivals de l'automne, du coup, ça a été assez trépidant comme rythme. Mais en même temps, ça avait vraiment été chouette de pouvoir rencontrer les lecteurs, parler de la tour de garde. C'était vraiment un super moment, quoi.
J'ajouterais même, en fait, pour aller plus loin, ce n'est pas seulement un super moment, c'était un moment vraiment extraordinaire. En fait, moi, j'ai eu cette espèce de prise de conscience, parce que je travaille aussi un petit peu dans le livre comme Claire, et j'avais toujours eu en face de moi, en discutant avec des auteurs qui me disaient « Non, mais les festivals, c'est vraiment génial, c'est vraiment ce moment où on rencontre nos lecteurs et où on peut avoir des discussions à bâton rompu, etc. » Et bon, ça fait un petit moment que je traîne dans le milieu, et à un moment, on a tendance à devenir un petit peu cynique sur le sujet. Et donc, j'imaginais que c'était une manière de dire, enfin, que c'était politiquement correct pour un auteur de dire que c'était extraordinaire de rencontrer ses lecteurs. Et en fait, pour l'avoir vécu, là, au mois de septembre-octobre, je pense que je peux le dire, en réalité, c'est extraordinaire de rencontrer ses lecteurs. Et je suis complètement revenu sur mon côté cynique. Et vraiment, parler du bouquin avec des gens qui l'avaient lu, l'avaient apprécié, attendez la suite avec impatience, venez me le dire. En festival, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment extra.
Merci beaucoup. Surtout que, alors, ce soir, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu particulier parce qu'on a vraiment toute la chaîne du livre. On a, alors, la chaîne du livre, c'est une expression qu'on utilise dans la profession pour désigner ce qui lie les auteurs-autrices aux lecteurs-lectrices, mais avec des maillons entre les deux. Donc, les maillons. C'est l'éditeur, le libraire, les bibliothécaires et les lecteurs. Et donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est se tourner vers les lecteurs et enfin leur laisser la parole. Voilà.
On a oublié.
Oui, quand même.
Les correcteurs. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire que les lecteurs, sous l'éditeur, il y a le correcteur. Le maquettiste ou la maquettiste pour l'intérieur, la graphiste pour l'extérieur, les commerciaux, l'imprimeur, il y a voilà, c'est-à-dire que un texte, c'est effectivement une œuvre personnelle, mais un livre, c'est une œuvre collective. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble pour qu'un livre existe, avec des savoir-faire qui doivent se compléter et s'harmoniser, et même les libraires. Alors c'est là où c'est vraiment une chaîne, c'est-à-dire ça va dans tous les sens, c'est que les couvertures d'Elena Vieillard, c'est des couvertures qui ont été faites, un principe de couverture qui a été pensé après des longues discussions avec beaucoup de libraires, essayer de comprendre vraiment ce qui d'après eux était une couverture intéressante, ce qui d'après eux était une couverture qui était originale mais qui ne perdait pas les gens non plus. Et en fait, c'est donc une chaîne qui n'est pas simplement... On va de l'auteur vers les lecteurs dans un sens, mais il y a en permanence des échanges qui se font dans les différents sens. Et souvent, en fait, pour que la chaîne du livre fonctionne, il faut d'abord que chacun comprenne bien son métier et s'intéresse au métier des autres, en fait. Et on se tourne vers les lecteurs, voilà. Et alors, c'est le moment où on va prendre vos questions.
Je voulais demander au niveau de la pensée. Vous expliquez tout à l'heure qu'entre les deux villes, quelque chose qui était très séparé quoi, entre les arts, la poésie et puis de l'autre côté ce qui serait économique, mathématique. Est-ce que vous vous êtes retrouvé un peu coincé par ce côté manichéen quoi, dans vos réflexions dans
Nous au contraire ça... Oui. Au contraire du coup ça a été plutôt la base des deux intrigues. C'était il y a quelques événements qui sont communs dans une trilogie et l'autre, et le fait que ces événements soient abordés avec des états d'esprit complètement différents, c'est ce qui rendait ça plus intéressant, en fait, plutôt que répéter deux fois les mêmes intrigues. C'est, au contraire, ça enrichissait un petit peu, et ça permettait aussi d'offrir une autre perspective sur les mêmes événements un peu surnaturels qu'on peut voir dans les deux villes.
Et après, si je peux ajouter aussi, que ce soit clair ou moins, on ne voulait pas de toute façon que ce soit manichéen. Donc ce qu'on a voulu mettre en avant, la poésie d'un côté, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commerce dans la capitale du Sud. Et inversement, chez Citadin de Demain, il y a aussi des histoires avec des...
Il y a des pièces de théâtre,
etc. Ouais. Donc il y a quand même, mais ce n'est pas l'objet, entre guillemets, vers lequel se tournent les personnages principaux. Mais ça existe tout de même.
En tant que lecteur, ce que j'ai apprécié, pour moi, c'est un des multiples choses que j'ai apprécié dans, dans cette lecture, c'est que, et c'est un aspect très très romanesque, c'est que ça rappelle souvent que ce que les gens professent, c'est souvent ce qu'ils aimeraient être, mais ce qu'ils ne sont pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils mentent, c'est que souvent ils se mentent à eux-mêmes. Et dans les deux villes, il y a un petit côté tragédie des puissants, c'est-à-dire on va suivre une caste dominante qui s'illusionne un peu sur ce qu'elle est et sur ce, à quel point elle incarne sa ville. Elle se fait déborder par sa ville à chaque fois, c'est-à-dire que finalement, la société de Gemina, c'est une société très médiévale, dont la valeur cardinale, c'est l'honneur. Et en fait, finalement, ils ne professent l'honneur que parce que ce sont beaucoup des personnages sans honneur, en fait. Et donc, il y a quelque chose où il y a un principe, il y a un idéal, et en fait, la vie déborde et fait exploser ça à chaque fois. Donc, en fait, ça déborde. Et en fait, plus on avance dans la trilogie, alors ça, j'anticipe un tout petit peu, mais la suite arrive dans un mois et demi. Plus on avance dans la trilogie, plus en fait, ça déborde de partout et... Et ça éclate. Enfin, je sais pas si.
Oui, c'est complètement ça. Effectivement, il y a ces idées de ces villes. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ces villes qui sont idéalisées par les personnages principaux, mais aussi par tous les habitants de ces villes. Et puis il y a la réalité, et la réalité rattrape les villes. Et oui, enfin en tout cas dans le tome 2 de Capitale du Sud, comme dans le tome 2 de Capitale du Nord, il y a ce moment, enfin, on est au centre d'une trilogie, c'est le moment un peu charnière, où justement, il y a des choses qui basculent, on va dire. Et ce débordement se fait violence.
Je pense à un point de détail, après je vous redonne ça, c'est que tu parles de basculement, mais puisqu'on parle de la réception aussi, c'est-à-dire comment les gens le lisent et nous font savoir ce qu'ils en pensent, j'ai été frappé de voir à quel point lecteurs et lectrices ont été frappés par les fins de vos romans. À quel point ça... C'est-à-dire... c'est étonnant. C'est-à-dire que moi, je trouvais que c'était des très bonnes fins, mais vraiment, c'est... Enfin, voilà, certains, ils ont l'air traumatisés. Voilà. Est-ce qu'il y avait... Alors, parce qu'il faut voir qu'au début...
C'est surtout elle.
Dans le processus... Non, mais dans le processus d'écriture, c'est qu'en fait... ces tomes n'avaient pas initialement cette forme. C'est-à-dire que vous avez réfléchi sur comment on découpe, comment on fait ça, et est-ce qu'il y a toujours eu ces moments abrupts en fin de volume, ou est-ce que vous vous êtes dit, nous on veut que, puisque ce volume s'arrête là, il faut offrir quelque chose à un grand final.
Voilà. Nous, ce qu'on avait envoyé à David au début, quand on lui a fait lire ce qu'on avait sans savoir trop quelle forme ça allait prendre, c'était à peu près l'équivalent des deux premiers volumes pour chaque ville. Mais il y avait quand même déjà cette coupure, en fait. C'était déjà structuré en deux vagues parties. On a repris beaucoup de choses, mais effectivement, on a gardé cette césure. La raison, c'est aussi qu'on veut renouer avec, surtout du fait d'avoir cette publication tous les 6 mois, renouer avec le côté sériel, le côté feuilleton, en fait. Et c'est vrai que ce qui caractérise le plus le feuilleton, c'est le cliffhanger, quoi. Enfin, la fin qui donne vraiment envie de passer tout de suite au tome suivant, quoi.
La fin, ça. Pour schématiser, c'est la fin de l'épisode où l'héroïne se fait kidnapper et mettre dans un coffre de voiture et la voiture s'en va. donc effectivement, voilà, on voulait que ça soit vraiment un côté feuilletonesque comme ça.
Merci. D'autres questions ?
La manière dont on lit les livres, si on suit les dates de parution. Mais bon, dans l'année prochaine, enfin, dans 2 ans, tout sera paru. Donc, on va se retrouver avec ces livres-là. Et alors, du coup, comment on les lit? Est-ce qu'il y a une règle, ou est-ce que les lecteurs ou lectrices peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire lire d'abord une trilogie, puis l'autre, ou alors on fait comme ça, on fait le 1, le 1, et si on commence par le 1, par lequel on commande des 1, ben vous.
Oui, tout à fait.
C'est une question qu'on doit se poser.
S'ils veulent faire comme ils veulent, est-ce que ça marche quand même?
Ça marche quand même. Quelle que soit la manière. Alors, il ne faut évidemment pas commencer par le troisième tome de chaque trilogie. Voilà. Non, mais effectivement, le principe, il est simple. Et c'était le cahier des charges qu'on s'est un peu donné dès le début avec Claire. Chaque trilogie peut se lire indépendamment, c'est-à-dire que l'histoire de Nox, on peut la suivre du tome 1 au tome 3. Il y a un début, un milieu, une fin. Idem pour l'histoire d'Amalia, on peut ne lire qu'une des deux, ne lire que Amalia ou que Nox, ça a du sens. Et effectivement, ce qu'on a essayé de faire tout de même, puisque à partir du moment où on est parti dans cette logique de publication, où il y aurait un roman Capitale du Sud qui paraîtrait en avril, et puis un roman Capitale du Nord en octobre chaque année, c'était de se dire, pour les gens qui suivront, entre guillemets, au moment de la parution, comme on est quand même sur un feuilleton, qui est quand même un petit intérêt à le lire, dans l'ordre de parution. C'est-à-dire Capitale du Sud 1, puis Capitale du Nord 1, Capitale du Sud 2, Capitale du Nord 2, etc.
Mais on peut alterner en commençant par Capitale du Nord, enfin,
il n'y a pas de déperdition, effectivement. Ouais. Mais effectivement, par exemple, la tour de garde, donc qui donne son nom au cycle, on reste un petit peu abscons sur ce que c'est exactement. Donc quand on lit Capitale du Sud, tome 1, on apprend que la tour de garde, c'est un jeu de société, enfin une espèce de jeu un peu comme les échecs, auquel joue tout le monde, enfin, auquel on joue dans les rues, et auquel on joue aussi dans la cité du Nord. Quand on lit Citadin de demain, on apprend que la tour de garde, c'est quelque chose d'autre aussi. Quand on lira Trois Lucioles, donc la Capitale du Sud 2, on apprendra encore un petit peu plus sur la tour de garde. Et au fur et à mesure, comme ça, d'une certaine manière, brique par brique, on pose la tour de garde.
Donc ça va être indiqué tome 1, tome 2, tome 3.
Tout à fait.
Voilà, ça ne fait pas du tout tome 6.
Non, ce sera vraiment 1, 1, 2, 2 et 3, 3.
Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, parce que du coup, c'est une discussion qu'on a eue justement il n'y a pas longtemps, parce que du coup, moi, j'ai lu les tomes par ordre de parution, et on a une collègue là donc avec qui j'ai conseillé de lire les deux tomes, et elle les a lus donc entre guillemets dans le sens inverse, du coup commençant par Capitale du Nord ensuite Capitale du Sud, et c'était marrant parce que quand même par rapport à certains éléments, bon là on n'a pas du tout parlé quand même de l'élément on va dire perturbateur qui va relier quand même les deux villes qui, ouais, comment dire, ouais, l'élément perturbateur qui va lier les deux villes. Et elle était beaucoup plus surprise par certaines choses, alors que moi, effectivement, j'avais été entre guillemets préparée à la découverte, enfin, de cette bassine. On peut dire qu'il y a une espèce de ville qui est un peu parallèle et qu'on aperçoit.
Chaque ville a le reflet de son miroir, en fait. Là encore, on a des jeux de miroir.
Et effectivement, ça, moi, j'étais nettement plus dans la méfiance, on va dire, par exemple, en lisant le tome donc, de Claire Duvivier, que, alors que dans le premier tome, on est juste là, bon... Enfin, voilà, on découvre vraiment, et finalement, la découverte peut se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que la surprise est aussi très grande en commençant dans...
En commençant par Citadin de
demain. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Et les éléments, effectivement, résonnent vraiment bien de l'un à l'autre, donc... Cela dit, même si je pense que tout est possible, je trouve que ça serait vraiment chouette que les gens continuent à lire en alternant, parce que vraiment, on apprend petit à petit des choses qui se complètent. Enfin, effectivement, on sent que vous avez vraiment travaillé quand même sur la complétude, en fait, à chaque fois sur les différents tomes. Et ça, c'est vrai que c'est ultra plaisant d'avoir de dire « Ah, bon, ça j'ai lu, mais en fait, du coup, ça fait écho à autre chose. On n'avait pas forcément de réponse auparavant. Et là, en fait, finalement, ça vient rajouter un petit quelque chose dans l'histoire.
Bah, c'était l'idée, effectivement, que toute cette logique, entre guillemets, que nous, on a travaillé très, très en amont, on la voit pas forcément en lisant au premier abord, mais qu'elle apparaisse un peu au fur et à mesure par petites touches.
Je pense que ça va apparaître, du coup, d'après ce que vous dites à la fin, si vous avez travaillé sur des dialogues vraiment... commun, pour le coup, là, ça va vraiment venir se mettre...
Oui, c'est presque une question d'ontologie de l'œuvre d'art. Là, je l'ai casé, on est vendredi soir, je l'ai casé. Non, mais d'ontologie de l'œuvre d'art, parce que, en fait, finalement, le sang de la cité, lu en premier, ou le sang de la cité, lu après le premier roman de Claire, c'est deux œuvres artistiques différentes. C'est les mêmes mots, mais pourtant, c'est deux œuvres différentes parce qu'esthétiquement, c'est plus la même expérience. Voilà. Il n'y avait pas de question. Voilà, c'est ça. Et ça, dans 50 ans, on fera des thèses dessus. Voilà. Non, mais j'y pense parce que tout à l'heure, on a employé le terme d'univers partagé. Mais en fait, moi, quand on a un peu réfléchi sur quelle serait la meilleure façon de présenter l'œuvre, c'est vrai que moi, ça me faisait penser... au monde de l'éditeur de bande dessinée américaine Marvel, qui dans les années 60, c'était des publications feuilletonnantes de périodiques qui étaient en parallèle. Donc il y a des gens qui allaient suivre tous les périodiques, certains en suivaient que quelques-uns, et puis ils étaient quand même censés, ils étaient liés, il y avait un gros effort de coordination en fait.
Parce qu'il y avait des crossovers, de temps en oui. temps on retrouvait les personnages d'une série dans une autre série, et c'est une, pour nous c'était un peu l'idée justement, cette idée partagée, on a été lecteurs de comics tous les deux, et effectivement c'est une inspiration.
Oui, et donc il y a une dimension fantastique, c'est là où il y a, c'est-à-dire que la fantasy, c'est à la fois un univers médiéval imaginaire et aussi une petite touche de magie. Parce que, en fait, vous rentrez dans un catalogue, le catalogue des éditions Forgeuses de Vulcain, où en fait il y a quelques autres textes de fantasy, mais il y a surtout la traduction en cours de l'intégrale de la fiction de William Morris, qui est présenté comme un des inventeurs de la fantasy. Et l'idée initiale de William Morris quand il crée la fantasy, c'est qu'il veut faire passer des idées politiques. Ça, on verra. Enfin, ça me donne une question après, une question piège. Mais William Morris, il voulait faire, c'est un auteur victorien, il veut faire passer des idées politiques. Il se rend compte que, parce qu'il va souvent à la rencontre des ouvriers, il se rend compte que faire du roman naturaliste, les ouvriers détestent ça parce que quand ils sortent de l'usine, ils n'ont pas envie de lire un roman sur l'usine. Et par contre, des romans un peu d'aventure ou distrayants dans des univers des paysans, ça les intéresse. Sauf qu'en fait, on ne peut pas faire vraiment de romans historiques, parce que les romans historiques sont toujours liés à des enjeux qui sont encore importants à l'époque. Si, par exemple, William Morris est un grand admirateur de Walter Scott. Walter Scott, c'est un écossais indépendantiste. Donc quand... culturellement indépendantiste, donc si vous faites du roman historique à la Walter Scott, vous dites quelque chose sur le Royaume-Uni que William Morris n'avait pas envie de dire, et donc il s'est dit, ben, on va faire du Moyen-Âge, mais du Moyen-Âge imaginaire. Et c'est là où en fait, et il le croise avec le conte. Donc ça vient de là, c'est une manière de réactiver certaines valeurs du Moyen-Âge en rajoutant quelque chose qui fait que c'est plus notre Moyen-Âge. Mais William Morris, il le fait parce qu'il avait une visée politique. Est-ce qu'il y a des visées politiques dans vos textes? Moi, je trouve vos textes très politiques, mais après, je pense que vous êtes d'abord des romanciers, donc en fait, vous voulez...
La question, c'est pas est-ce que c'est politique, c'est ce qui est la visée politique. C'est, oui. Non, il n'y a pas de visée politique. Après, le fait qu'il y ait des valeurs qui transparaissent parce qu'on est qui on est, oui, sûrement. Mais notre but, c'est certainement pas de...
C'est pas de prêcher, en fait. Voilà. Mais effectivement, si on va par là, tout est politique. Enfin, toute œuvre d'art est politique. Ouais. Donc, dans ce sens, on a écrit quelque chose. Donc oui, c'est politique. Mais évidemment, il n'y a pas de volonté d'en faire des prêches politiques pour une paroisse ou pour une autre.
Et d'ailleurs, non, mais en plus, de ce côté-là, l'œuvre de Maurice, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des textes qui ne sont pas très loin de la prêche. Et qui sont malheureusement un peu barbants, très intéressants d'un point de vue idéologique, mais malheureusement un peu barbants. Et puis, il y a des moments, en fait, où c'est politique, mais au sens où simplement, on sent les valeurs des héros, sans qu'ils les professent explicitement. Et c'est une manière assez, pour le coup, je pense, plus éloquente de faire de la politique dans la fiction, c'est-à-dire de rester dans le romanesque, en fait. Et il n'y avait pas de question non plus.
Oui, non, mais je rebondis quand même. Bon, on m'a souvent dit pour un long voyage qu'il y avait un côté très politique, parce qu'effectivement, le narrateur, c'est quelqu'un qui raconte la vie des puissants, mais qui reste dans l'ombre. C'est quelqu'un, c'est un orphelin, c'est un type qui n'a pas de famille, qui n'a pas de nom, qui a... oui, sûrement, effectivement, c'était le personnage qui servait le mieux le récit, et il se trouve que peut-être qu'en lisant entre les lignes, oui, on peut lire des choses sur l'ascension sociale qui me portent particulièrement à cœur, mais ce n'était pas la visée du roman, en fait. C'est là, mais ce n'était pas la visée. Là, dans Citadin de demain, on a des personnages complètement différents, où effectivement, le personnage principal, lui, je pense que certains lecteurs de Un long voyage ont dû voir ça comme une espèce de trahison sociale, mais la narratrice, elle est issue de la noblesse, qui est quand même la classe dominante de Dehaven, et qui est une classe pas sympathique du tout, quoi. Donc il y a un côté, oui, mais à quoi ça rime d'avoir un personnage principal qui est une dominante, qui est... ça rime, attendez de voir la suite, quoi. Enfin, l'idée, c'est ça aussi. C'est... Moi, je trouvais ça intéressant aussi de me placer du point de vue de quelqu'un qui va devoir remettre en question son univers dans lequel elle a grandi. Parce qu'effectivement, souvent, dans ce genre de roman, il y a un côté la princesse qui choisit son piédestal, qui se rend compte que le monde est atroce. Moi, je voulais avoir plutôt un personnage qui était intelligent et qui voyait les choses par lui-même, en fait, enfin, par elle-même, en l'occurrence, et à qui il n'y a pas, on va dire, de traumatisme qui va faire qu'elle va se rendre compte que le monde est méchant, en fait. Je voulais quelqu'un qui arrivait à ce raisonnement par, enfin, bah, par la raison. Voilà. Donc c'était ça qui me paraissait intéressant. Alors effectivement, du coup, ça véhicule certaines choses politiquement, mais la visée, c'était pas de dire que c'est quand même dur de ne pas être noble à De Haven, parce que ça aurait pas de sens, quoi. On vit pas à De Haven. Hein.
Non, mais cela dit, deux remarques, c'est que d'une part, là où effectivement, il y a toujours de la politique qui transparaît, mais il n'y a pas de visée politique, c'est que le sens politique d'un long voyage, il est multiple. Donc en fait, bien malin le lecteur ou la lectrice qui pourrait dire tel est le sens, alors qu'effectivement, il y a des romans de William Morris où le sens est explicite, et donc il n'y a pas de moyen de créer de l'ambiguïté. Et puis, je vais refaire un parallèle avec Ursula K. Le Guin, à nouveau. Quand, en fait, Ursula K. Le Guin, qui est présentée souvent comme très engagée politiquement, mais qui disait qu'elle détestait les romans à message, elle préférait les romans à signification, c'est-à-dire elle pose une situation et elle la laisse se développer dramatiquement ou de manière romanesque. Et en fait, le sens de politique des romans de Le Guin n'est jamais clair, en fait. Il est... Enfin, on peut se les approprier de manière très différente. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la réception de Le Guin, à chaque génération, il y a eu des interprétations assez différentes, pas opposées non plus, mais assez différentes de son œuvre. Donc effectivement, il y a toujours quelque chose de politique, mais on est d'abord dans le romanesque, en fait. Et donc, merci.
On peut entendre un petit extrait d'un autre que vous lisez.
Vas-y. Tu veux pas le faire ?
Non, vas-y.
Alors, on va commencer par le sang de la cité, puisque maintenant il a été établi une fois pour toutes, grâce à ce concile, qu'il fallait commencer par le sang de la cité et lire les 6 volumes dans cet ordre, même s'il est techniquement possible, tout en profitant de l'œuvre, de lire dans un ordre différent, sauf qu'il ne faut pas commencer par les volumes 3. Voilà.
Où est-ce que je commence ? Alors, petite, c'est dans le chapitre 1, parce que l'idée c'est aussi de ne pas divulgâcher le roman. L'idée c'était de plonger un petit peu, en choisissant cet extrait, un peu dans les entrailles de la cité. Donc, le narrateur, Nox, vient de quitter son meilleur ami, et du coup, je repartis en direction des Lassies en sautillant pour esquiver les passants. Et tandis que je retournais au magasin, je fredonnais bien malgré moi la comptine dont j'avais appris à aimer les paroles. Dans l'ombre des tréfonds, tapis comme des loups, vivent les plus hideuses des créatures des fosses, mais rien n'est plus grotesque au moineau des fous que le cri de Servin et de ses suceurs d'os. Les ruelles étaient bondées de marchands ambulants et de crieurs de nouvelles. Je me plongeais dans la masse grouillante de vie des ruelles avec plaisir, m'enivrais des odeurs de pâtisseries mêlées d'épices et d'herbes aromatiques. Les costumes bariolés d'une troupe de saltimbanques tranchaient avec la pierre rouge des murs de la cité. Un estrillon coiffé d'un turban m'apostropha. Une pièce d'argent pour un compte d'or, jeune homme. Je lui fis signe que je n'avais pas d'argent, mais il ne me regardait déjà plus. En débouchant sur l'escalier de la rue des Grands Éclats, je retrouvai le secteur dont j'avais l'habitude. La foule y était encore plus dense, la chaussée bruissait au rythme de ses habitants. Les marchands criaient à plein poumon, les badauds se bousculaient, les enfants se lançaient une balle qui allait se perdre dans les sacs de toile remplis d'épices. Un homme vêtu d'une tunique rouge vif crachait des flammes en haut d'un parapet, sous les applaudissements de l'assistance. Un garde de la cité se frayait un chemin en renversant les étals de légumes et en bougonnant sous son armure brûlante, le chant de la cité. J'enjambai le vieux Cyrilux qui faisait comme d'ordinaire la manche sur le quai des proues vives. Il me fit un signe amical de la main et je le lui rendis, m'éloignant le plus rapidement possible de lui. C'est que le bonhomme pouvait sentir une goutte de vin à 10 mètres, autant ne pas prendre de risque avec ce que j'avais dans ma besace. Les pavés étaient envahis de marchandises diverses, vendues dans la plus stricte illégalité par des camelots hurlant à gorge déployée. Ma petite taille me permettait encore de me faufiler entre les corps en mouvement dans les allées et je m'en servis pour évoluer dans la masse. Une fois sorti des ruelles sans nom, je m'avisai qu'il n'était pas loin de 10 heures du matin, les cloches n'allaient pas tarder à sonner à toute volée. Les débardeurs du premier tiers du jour allaient envahir la chaussée à leur tour pour rentrer chez eux et je me retrouverais à contre-courant des flux. Ni une ni deux, j'enjambais une murette à demi effondrée et me glissais dans une minuscule contre-allée qui servait de réserve de marchandises aux bazardeurs. De là, je pris appui sur deux pierres pour escalader et me hissai sur un créneau surplombant la rue des Égoutiers. quelques mètres en équilibre, puis je me laissais retomber dans une minuscule artère, bien moins fréquentée, et pour cause, celle-ci avait été bouchée à ses deux extrémités par la recluse. Il n'y avait là que des dormeurs que je m'efforçais de ne pas éveiller en fredonnant. Au bleu du vilsouffleur fit suite un vert matin, aux avis de Kawan, une victoire précoce, et au vengeur Servin, ce bien maigre butin, rien que cadavre froid et de lait suceur d'os. Nouvelle escalade en mettant les racines prises dans le mortier tout en sifflotant. Je passais par-dessus la rue des boulangers grâce à une arcade en ruine et saluais la grosse Eludia qui accourut aussitôt vers moi. « Nox !» cria-t-elle par-dessus la clameur de la rue. « Ce vieux voleur de Sten me doit toujours deux mesures de farine. »« Il te fait livrer les gâteaux au miel dès demain, » dis-je en m'asseyant sur l'arcade, mes jambes pendant dans le vide au-dessus d'elle. « Au prix du miel en ce moment, tu y gagnes. »« Mon cul si j'y gagne, la farine coûte aussi cher. » Je soupirai. Depuis qu'elle avait repris le four familial, Eludia était connue pour sa proverbiale avarice. « Arrange-toi avec lui, se lançais-je. Je gâche qu'il a oublié les dégâts de ton bellâtre dans sa boutique le mois dernier. » Plusieurs personnes dans la foule se tournèrent vers son gros visage qui rougit aussitôt. Personne n'ignorait le penchant d'Eludia pour Rykov, l'amour de celui-ci pour le mauvais vin et ses soirées de beuverie destructrice. Ne laissant pas à la boulangère le temps de se reprendre, je me redressai d'un bond et repris mon chemin en chantonnant. Il les fit se vêtir, lava les corps crottés, le moineau se para de leur odeur atroce, nourri de vieux débris, carcasses de poulet. On les nomma de fête les enfants suceurs d'os. Je m'arrêtai de chantonner en rejoignant les quais par des marches usées. Les strophes suivantes développaient encore l'origine du nom suceur d'os en spéculant sur les os que les deux enfants avaient sucés en grandissant au contact du duc Servin, puisque nourri par la cavane, ils n'avaient plus besoin de carcasses de poulet. Évidemment, les sous-entendus étaient mensongers, j'étais bien placé pour le savoir, mais j'avais appris avec le temps qu'on pouvait défendre son odeur contre des gamins des rues, pas contre une comptine. Et puis la mélodie était entraînante après tout.
Du coup, on va aussi un petit peu explorer la ville. On va explorer The Haven et ça se passe en été, histoire qu'on se réchauffe un peu. Alors, The Haven a ses obsessions et certaines d'entre elles ne m'épargnent pas. C'est une ville obsédée par le soleil, peut-être parce qu'elle en manque singulièrement une bonne partie de l'année. L'été, ses habitants semblent revivre. Dans les quartiers roturiers, les faubourgs et la grille, on sort les chaises et on les installe sur le trottoir. Les estaminets font terrasse et l'on perce les tonneaux dans la rue. Dans la citadelle, le quartier noble, on ne s'installe pas sur n'importe quelle voie publique, ce serait vulgaire, mais sur les gabeleurs, qui deviennent chaque belle saison le dernier salon où l'on cause. Quelle que soit la classe sociale, les manches se retroussent et les peaux se dévoilent. Irion dirait que les habitants se chargent en énergie ou quelque chose dans ce genre. Créature solaire moi-même, je ne faisais pas exception. Autre obsession de Dehaven, la mer. Certes, plus que la terre, c'est elle qui fait vivre la cité. Les riches lui doivent leur fortune, les pauvres leur subsistance. Ici, pas un petit enfant qui ne sache nager. Dès que les températures s'y prêtent, les Havenois de tous les âges envoient balader leurs vêtements pour se jeter à l'eau. Créatures marines également, là encore, je ne faisais pas exception. Attention cependant, on ne se baigne pas avec n'importe qui. De nombreux endroits sont aménagés dans ce but et des règles tacites les réservent à certaines catégories de population. Ce qui rejoint la troisième obsession de The Haven, le sang. Et j'ai beau être une créature sanguine, ô combien, celle-là ne cessait de me surprendre. J'avais grandi dans cette culture, et pourtant l'ingéniosité dont la noblesse de The Haven pouvait faire preuve pour ne pas mêler les sangs m'étonnait continuellement. Le plus simple restait l'isolement géographique. En reprenant l'exemple de la baignade, à l'ouest, la large grève longeant les faubourgs accueillait les gens du commun. Le canal des extensions, qui séparait la grille de la prise, et qui est encore quasiment inutilisé par les bateliers, était le bassin préféré des habitants de la grille. C'était là que nous allions nager certains matins avec Irion et Jonas. À l'est, en contrebas des gableurs, un long ponton en bois permettait aux familles nobles de s'installer à hauteur d'eau tout en étant relativement protégées des regards. Au sud de la citadelle en particulier, l'endroit était prisé des jeunes femmes pudiques, car il était difficile d'observer les baigneuses depuis la ville. Les gableurs, ancien chemin de ronde, aboutissaient à la vieille tour de guet en hauteur. C'était là que j'étais descendue ce jour-là, pas vraiment par pudeur, mais parce que j'étais sûre que personne ne viendrait m'y chercher. J'étais d'humeur morose, cet été déjà bien entamé était d'une tristesse sans nom. Il n'y avait pas eu de principe du berger pour nous. Nous étions restés à quai, à regarder l'horizon, et celui-ci ne promettait rien d'enthousiasmant. Car les fiançailles annonçaient également la fin du scriptorium. Les leçons étaient terminées. À partir de l'automne, nous n'aurions plus de précepteurs. Nous étions maintenant en âge d'effectuer les devoirs de la vie adulte qui nous revenaient, ou du moins de commencer à y goûter. C'est toujours le pire été de la vie, ça, en général.
Une dernière question. Alors, s'il n'y a pas de... Ah, il y a une dernière question.
Alors, des fois, parfois, c'est l'auteur lui-même qui fait la carte, mais il se trouve que Claire, comme moi, je crois qu'on est des déplorables dessinateurs. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est David qui nous a sorti cette épine du pied. Donc, David tenait absolument à ce qu'il y ait une carte des villes. Et nous, on voulait aussi, enfin, on s'était dit que pourquoi pas, mais à condition que ce soit pas seulement une carte, mais que ce soit à la limite une illustration. Donc il nous a trouvé effectivement Daria Gatti, qui est une illustratrice de bande dessinée et qui a fait ces cartes absolument magnifiques sur la base de plans qu'on lui a fournis. On lui a mis des brouillons extrêmement moches qu'elle a transformés en or.
Oui, il y avait une dimension de code quasiment, parce que par exemple, le roman Un long voyage n'a pas de carte. Principalement parce que Claire m'a donné une carte qui ressemblait à deux ronds et une ligne droite, donc je pouvais pas en faire grand chose.
Non, mais je voulais pas de carte.
Non, mais je sais. Non, elle voulait pas de carte. Et c'est vrai que la carte, c'est à la fois, moi, ça me rappelle des souvenirs vraiment d'enfance et d'adolescence, parce que c'est une sorte de, ça fait partie du code du récit de fantasy, mais il y a toujours quelque chose. C'est très étrange, c'est que la carte, dans les récits de fantasy classiques, c'est fait de manière très naïve parfois, alors que c'est toujours des paysages mentaux, en fait. C'est-à-dire, les montagnes, c'est un caractère, la baie, c'est un caractère, et c'est la montagne de l'effroi, la baie des trépassés, c'est que des choses comme ça. Et là, en fait, l'idée, c'est que comme c'est un vrai texte, c'est un texte qui est plus proche des codes de la fantasy, c'était une manière de reprendre ce code et de faire signe vers les lecteurs-lectrices, même si finalement, on s'éloigne de certains codes de la fantasy. C'est pour ça que la patte de Daria Gatti est assez différente de la patte des cartographes habituels. Ce n'était pas notre première expérience de faire une carte dans un roman des forges, parce qu'il y a quelques années, Romain Ternaud avait sorti un roman qui s'appelle Spartacus, qui est une adaptation de la vie de Spartacus. Et on avait fait une carte romaine médiévale qui était elle aussi complètement fantaisiste, mais qui permettait de plaisanter sur un fait qui est intéressant, c'est que les historiens à peu près contemporains de Spartacus donnent des trajets complètement différents à Spartacus. En fait, il y a deux trajets complètement fantastiques. Enfin, complètement différent. Et donc, c'est justement parce que les cartes sont fausses que c'est intéressant de faire des cartes, en fait. Mais bon, après, moi, j'avais repéré Daria, parce que Daria, elle avait fait aux éditions Anne Carrière les couvertures de la première traduction intégrale de Pridin. Pridin, c'est un cycle de fantasy britannique des années 50-60 qui n'avait jamais été traduit intégralement en français. Et elle a fait des couvertures qui sont à la fois médiévales et un peu, pas juvéniles, mais douces, en fait, pas martiales, en fait, parce que parfois, la fantaisie peut avoir quelque chose d'un peu martial. Et j'avais aimé son trait, en fait.
Bah, nous, on a aussi beaucoup aimé, parce qu'on ne voulait pas, comme on parle de cartes de ville, on ne voulait pas que ce soit des cartes qui disent bah, « voilà, le personnage il est passé là, puis ensuite il est allé là, puis ensuite il est allé là ». L'idée de ces cartes, enfin ce que nous on voulait, et c'est pour ça que le choix de Daria était excellent pour ça, c'était que ce soit plus une manière de se mettre un petit peu dans l'ambiance de la ville, de voir que Dehaven est très quadrillé, très, très délimité, très, donc on sait où sont chacun des quartiers. Et puis que par contre, côté Gemina, donc on a cette espèce d'arc de cercle avec le port où se passe l'ensemble de l'action au centre, et les quartiers qui remontent au terme de falaise et qui donnent un petit peu l'image de un amphithéâtre, un théâtre gréco-romain où on observe la scène, et la scène c'est là où se passe l'action. Donc c'était juste pour donner cette espèce de vue d'ensemble de c'est une ville complètement anarchique, mais attention, quatre coups de tambour et puis la scène se passe là, quoi.
Puis il y a autre chose, c'est que quand les auteurs travaillent sur un texte qui se passe dans un monde de fantasy, ils vont veiller à ce que leurs choix lexicaux sont des choix qui appartiennent à ce monde. Par exemple, ils vont jamais dire « et alors il se mit à courir à 100 à l'heure », parce que 100 à l'heure, ça fait bien sûr allusion à un élément technique de notre monde, mais qui n'est pas un élément de ce monde-là. Les cartes, c'est un peu la même chose, au sens où, dans les récits de fantasy, on a toujours l'impression que la carte, on fait comme si elle avait été faite par quelqu'un qui habite dans ce monde. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de se dire que ces deux villes, c'est des villes en temps de paix. Les personnages qu'on va suivre, c'est des jeunes adultes qui ont une dimension idéaliste, et que d'une certaine façon, le tracé de la carte, sa texture, son trait, devait reproduire en fait leur univers mental, leur délicatesse, ce type de choses. Donc c'est pour ça que finalement il s'avérait que c'était Daria Gatti était la personne idéale pour faire ces cartes.
Est-ce que je peux juste poser une dernière question? Je me demandais juste sur la tour de garde. Donc c'était un jeu, on le découvre au début, et on voit apparaître et on devine certaines choses, mais du coup, est-ce que vous avez réellement pensé ce jeu, ou est-ce que vous allez rester un peu évasif dans ma description dans les tomes qui suivent?
On va rester très évasif. Non, il y a quelques concepts qu'on a quand même en tête, parce qu'ils sont communs, et parce que ça parle dans les deux romans. Donc c'est un jeu sur lequel on peut parier de l'argent, c'est un jeu qui se joue à deux, c'est un jeu qui se fait avec des figurines qu'on met sur un plateau, et surtout chaque joueur a son propre jeu de figurines en fait. C'est pas comme les échecs où vous pouvez prendre n'importe quel jeu d'échecs, et c'est le choix même des figurines qu'utilise, ça fait partie de la stratégie du joueur en fait. Donc ça, c'est les grands principes. Quelques noms de pièces aussi en commun, qui sont généralement, ça renvoie à des fonctions civiles ou militaires, le lancier, le général, le marin, des choses comme ça. Et à partir de là, par contre, pour le reste, on ne rentre pas dans les détails précis. Voilà. Parce qu'effectivement, le jeu est... c'est à la fois un élément d'intrigue, parce que beaucoup de personnages y jouent, et effectivement, il y a un côté aussi un petit peu métafictionnel aussi, ne serait-ce que dans la façon dont on a constitué le cycle. En sortant un roman chacun de nos tours, on pose aussi des pièces sur le plateau.
Je pense que souvent la qualité de l'écriture romanesque, ça se voit dans la capacité des auteurs et des autrices à créer du creux. Créer du creux, c'est pas être dans l'explicite complet, c'est donner des éléments qui fait que le lecteur et la lectrice se retrouvent engagés psychologiquement dans la lecture, parce qu'il doit faire une partie du chemin, ce qui fait que toi et moi, on a lu les mêmes pages, mais on a sans doute imaginé des choses différentes à partir de notre culture propre. On devient des produits. Moi, par moment, l'imaginaire de la tour de garde m'a fait penser un tout petit peu au tarot avec les dimensions ésotériques qu'il y a derrière. Ce n'est pas des romans ésotériques du tout. Ça m'a fait penser par moment à ce jeu de société des années 90 qui était Magic the Gathering, qui était un jeu de cartes qui joue à deux avec des mécanismes plus ou moins complexes. Ça m'a fait penser bien sûr aux échecs, mais d'une autre façon, c'est que je suis très fan de la série américaine de SF Star Trek, où ils jouent aux échecs en 3D, alors qu'en fait, en regardant, on se rend compte que c'est des échecs, c'est juste qu'ils ont découpé le plateau en plusieurs trucs pour en faire une sculpture. Mais en fait, c'est des échecs comme les autres, voilà. Et donc, cette idée de savoir que la tour de garde, qu'est-ce que c'est comme jeu, et voilà, je trouve ça beaucoup plus stimulant que la tour de garde soit à demi fantasmée par le lecteur ou la lectrice. Après, je vais peut-être être complètement déçu. Ils ont peut-être déjà un accord avec un autre éditeur pour sortir un manuel de la tour de garde. Et c'est juste le confinement qui fait que l'usine en Chine a dû arrêter la production pour l'instant, mais que dans 2 mois arriveront dans tous les magasins de jouets un jeu de la tour de garde avec des règles très précises. Et voilà.
Non, je te rassure.
Tu n'es pas fourbe à ce point-là.
Et on peut peut-être passer à la dédicace, puisque ces deux auteurs sont des perfectionnistes et ils ont fait fabriquer des tampons de la tour de garde pour les dédicaces. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la bibliothèque Louise Michel. Bonne soirée.